On le joint à l'instant au bout du fil, Olivier Beauregard, pour parler sport, voir ce qui a retenu son attention dans la dernière semaine. Olivier, bonjour!
Salut!
Et là, c'est pas un élément, mais plusieurs petits éléments réunis ensemble, soit la situation de différents contrats dans la Ligue nationale de hockey qui a attiré ton attention cette semaine.
Ouais, puis j'ai comme l'impression que ça va un peu marquer la saison 2025-2026 dans la Ligue nationale. Puis je m'explique, là, je trouve cette année qu'il y a beaucoup d'incertitudes entourant certains joueurs qui sont classés comme super vedettes dans la Ligue nationale en termes de leur situation contractuelle. On peut prendre d'abord et avant tout l'exemple qu'on a le plus entendu parler récemment, c'est celle de Sidney Crosby. Les possibilités de transaction dans son cas sont de plus en plus sur la table des rumeurs, mm-hmm. parce que Sidney Crosby s'amène à Pittsburgh encore cette année. C'est un gars qui a joué toute sa carrière là-bas, puis tout le monde le voit finir sa carrière dans l'uniforme des Pingouins. Mais on le sait que les Pingouins vont franchir une étape de reconstruction. Il y a deux côtés à cette médaille-là. La première, c'est est-ce que les Pingouins seraient tentés de transiger un gars comme Sidney Crosby pour accélérer un peu le processus de la reconstruction, même si Sidney a une clause de non-échange dans son contrat. Est-ce que les Pingouins diraient « Hey, t'acceptes-tu de lever la clause parce qu'éventuellement, nous autres, faut qu'on se lève, faut qu'on se relève de cette reconstruction-là. » C'est une équipe qui est vieillissante, là. Je veux dire, t'as Chris Letang, t'as Evgeny Malkin, t'as Eric Karlsson qui fait mm-hmm. partie de la formation. C'est des gars qui ont eu des statuts de superstars, mais qui vieillissent, puis éventuellement, il va falloir les remplacer. Puis honnêtement, quand on regarde le gros portrait de la saison des Pingouins qui est à venir, c'est pas encourageant, là. Les Pingouins pourraient rater les séries. Sidney Crosby, c'est un gagnant. Est-ce qu'il accepterait de lever sa clause de non-échange? Bref, moi, c'est sûr que si je suis du côté de l'organisation des Pingouins, j'évoque toutes les possibilités pour essayer de passer une reconstruction le plus possible en douceur et le plus rapide possible également. Donc, moi, je pense que ça pourrait être une situation contractuelle intéressante à suivre. Et d'autant plus que là, les rumeurs disent que Crosby aurait parlé à des journalistes et aurait mentionné que lui, il joue pas au hockey pour perdre. Mm-hmm. Il est pas là pour accepter de ne pas participer aux séries. Il est pas là pour accepter de perdre des matchs parce qu'une équipe est en reconstruction à l'étape qu'il est dans sa carrière. C'est un gars qui veut plus gagner parce qu'il en reste moins devant lui. Alors, est-ce que Sidney Crosby lui-même voudrait quitter? Puis, je sais pas, moi, s'amener avec une équipe comme l'Avalanche du Colorado ou des équipes qui aspirent à gagner la Coupe, mm-hmm. ben ça pourrait être une autre option intéressante. C'est sûr que là, au moment où on se parle, Sidney Crosby, il a donné des billets de saison aux détenteurs des Pingouins il n'y a pas plus tard qu'en début de semaine. Donc, je pense qu'on veut calmer un peu cette tempête-là, mais chose certaine, moi, je pense que son avenir n'a jamais été aussi incertain à Pittsburgh, en ce sens où, si la direction ne lui demande pas de vivre sa clause, est-ce que c'est lui qui va demander de partir? En tout cas, on verra, mais ça, c'est une situation contractuelle qui est assez spéciale, surtout que Sidney Crosby, c'est comme l'éternel pingouin. Tu sais, c'est un peu le statut de Mario Lemieux.
Absolument, non, absolument.
Dans le sens, on le voit pas, si tu veux, on le voit pas dans un autre uniforme. Il a passé toute sa carrière là-bas, il a remporté 3 Coupes Stanley, il a relancé la concession des Pingouins. Donc, est-ce qu'il pourrait relancer la concession en s'en allant? Ça sera à suivre. Il y a ce côté-là, mais il y a aussi celui-là de Connor McDavid. On en parle énormément. Mm-hmm. Ça avait été une des premières questions posées à la suite de l'élimination finale de la Coupe Stanley cette année. On a demandé à Connor, tu commences la dernière année de ton contrat, il n'y a pas de discussion de négociation, il n'y a pas de prolongation de contrat qui a été évoquée de la part des Oilers d'Edmonton. Qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là? Et Connor McDavid a insisté en disant, je vais regarder toutes les options qui sont devant moi et toutes les options qui sont sur la table. Et récemment, il a même mentionné un journaliste que lui, il avait mérité justement son autonomie complète, puis il avait mérité de pouvoir magasiner, si tu veux, sa prochaine destination. Est-ce que Connor McDavid a l'intention de rester là? Je ne sais pas. Mais chose certaine, s'il avait eu l'intention à 100%, je peux te dire une chose, il aurait probablement déjà signé son contrat, puis les Oilers se seraient organisés pour lui donner le plus gros salaire octroyé dans la Ligue nationale, mm-hmm. parce que c'est le meilleur joueur au monde. Mais je pense que là, on est dans une situation un peu de non-retour. Et ce qui va être intéressant, c'est que si Connor McDavid n'a pas signé de prolongation de contrat d'ici à la période des transactions de la prochaine saison, moi, j'ai comme l'impression qu'on va lui dire « Bien, Connor, il va falloir t'échanger parce que sinon, on te perd pour absolument rien au mois de juillet. » Alors, j'ai hâte de voir ça. C'est un dossier qui est très intéressant et ça montre un peu la facette de Connor McDavid, c'est-à-dire ce qu'il pense vraiment de l'organisation. Est-ce que lui, il se dit « je gagnerai pas ici », même si ça fait 2 ans de suite qu'il s'incline en finale de la Coupe cette année? Est-ce qu'il pense qu'il serait mieux ailleurs? Est-ce que pour sa famille, ça serait mieux ailleurs? Bref, ça va être bien intéressant de suivre ce dossier-là également. Et en terminant sur le sujet, il y a Kirill Kaprizov, la grande star du Wild du Minnesota, qui vient de refuser un contrat qui aurait fait de lui, à l'heure actuelle, le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. Il a refusé ça pour rester avec le Wild. Ça aussi, ça l'évoque plusieurs possibilités, soit de transaction ou peut-être même un salaire encore plus élevé. Je
ailleurs, oui, peut-être. Oui,
ouais, mais c'est ça. C'est comme difficile à suivre un peu ce dossier-là, parce que ce qu'il s'est fait offrir, ça aurait fait de lui le joueur le mieux payé de la Ligue nationale. Et il a décidé de refuser cette entente-là. Donc, tu vois que c'est comme une nouvelle étape, parce que, rappelle-toi, dans les années 90, début 2000, là, les joueurs, là, ça restait avec les organisations longtemps. Mm-hmm. Surtout quand c'était des statuts de super vedettes, on s'organisait pour les garder le plus longtemps avec nous. Là, on a comme l'impression que c'est vraiment... le mot business est plus présent que jamais. C'est pas comme si... non, mais c'est vrai, c'est pas comme si les joueurs avaient un sentiment d'appartenance à ce point-là. Et c'est là que ça devient intéressant pour les gens qui nous écoutent, qui sont partisans du Canadien. Lane Hudson, Ivan Demidov, quand ces gars-là vont signer des gros contrats, là, est-ce qu'ils vont être aussi fidèles aux Canadiens de Montréal puis veulent jouer pendant 10 ans, ou est-ce qu'ils vont vouloir un moment donné aller voir ce qu'il y a de mieux ailleurs? Bref, ça nous montre un peu la vague qu'on voit en ce moment dans la Ligue nationale au sujet des statuts de super vedettes.
Maintenant, parlons football, parce que là, ben, on arrive dans la fin de saison tranquillement de la Ligue canadienne de football. Puis là, ben, il y en a qui faudrait qu'ils se déniaisent un peu s'ils veulent espérer une belle fin.
Ah, c'est très bien dit, puis c'est sûr que les deux équipes qui nous concernent, c'est-à-dire les Alouettes et le Rouge et Noir, c'est deux équipes qui ont comme de la difficulté à trouver leur rythme cette saison. Je regarde les Alouettes, je comprends la situation du corps arrière David Alexander qui est blessé. Après ça, t'as McLeod Tordison également qui s'est blessé. Mais là, il faut absolument que les Alouettes se mettent à gagner sur une base quotidienne. On a une étape de fait la semaine dernière. On a remporté un match que je m'attendais vraiment pas du côté de la Saskatchewan contre les Rough Riders. Mais ça reste que les Alouettes doivent absolument garder une série victorieuse pour pouvoir s'emparer au moins du deuxième rang de l'association, puis espérer avoir une confrontation, plus prenable en séries éliminatoires, parce que là, les Alouettes, là, ils se sont pas cachés, là. Depuis leur conquête de la Coupe Grey il y a 2 ans, ils veulent répéter ça année après année. L'an passé, ça a été une saison difficile. Cette année, ben, les blessures, encore une fois, nous ont vraiment jamais montré le vrai visage. Rappelle-toi, on a commencé avec des receveurs, puis les top receveurs de l'organisation, sur le banc, sur le carreau, plutôt, ou pas sur le banc, mais sur la liste des blessés. Puis là, ben, ils reviennent, puis là, c'est ton corps arrière qui est plus là. Donc, on a comme jamais vu le vrai visage des Alouettes. Puis du côté du Rouge et Noir d'Ottawa, c'est un peu la même chose. Corps arrière qui se blesse, après ça, on a des blessés d'impact, on a des blessés importants, autant à la défensive qu'à l'offensive. C'est comme deux équipes qui ont jamais eu vraiment leur vraie équipe sur papier, parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de bon espoir envers ces deux organisations-là au début de calendrier. Puis là, finalement, on se rend compte que on traîne un peu, on a de la difficulté à s'établir dans le classement. Ça serait décevant comme début d'hiver là, de voir ces deux équipes-là partir rapidement. Puis, c'est la réalité au Québec, là. Puis dans la région de Ottawa-Gatineau, quand ces deux équipes-là sont pas en série dans la Ligue canadienne de football, ouais, Sébastien, l'intérêt est complètement capote. Tu sais, je veux dire, on suit pas la Ligue canadienne, d'autant plus que la NFL va rouler à plein régime. Je pense que c'est bon pour la Ligue canadienne, dans les marchés qu'on est, de pouvoir avoir ces deux équipes-là, au moins une de ces deux équipes-là qui compétitionnent en séries éliminatoires. Donc, puis tu sais, le Rouge et Noir, ça fait longtemps, là. Ça fait longtemps, on est dû pour une bonne saison, on est dû pour un parcours éliminatoire intéressant, parce qu'on sent que c'est le même scénario qui se répète année après année. Marcel Bellefeuille avait fait un travail exceptionnel. Il a amené cette équipe-là à la conquête de la Coupe Grey. 3 participations en finale de la Coupe Grey, 1 conquête. Là, c'est comme, depuis ce temps-là, on dirait que c'est un peu la fin. Là. C'est la fin des livres, parce que depuis 2018, cette équipe-là n'a pas retrouvé son rythme de croisière. J'ai hâte de voir comment on va faire ça, mais c'est sûr que le Rouge et Noir devra rectifier le tir si on veut continuer à avoir du monde dans nos estrades. Puis du côté de Montréal, c'est parce qu'on a créé beaucoup d'attentes. Puis on s'en cache pas, à chaque camp d'entraînement, on dit qu'on va être une des meilleures équipes, puis qu'on a le vestiaire pour ça. Puis malheureusement, là, ça fait comme 2 saisons qu'on a comme l'impression que cette équipe-là trouve pas les solutions. La situation des blessés, Sébastien, ça fait partie de la job. Hein. Comme on dit, là, quand tu signes pour jouer dans le football, tu signes pour être blessé plus souvent qu'autrement. Mais l'objectif derrière ça, c'est d'avoir des solutions de rechange. Et j'ai comme l'impression que les deux équipes n'en ont pas présentement. Puis c'est ce qui fait en sorte que ben c'est un petit peu plus difficile de trouver un rythme pour ces deux équipes-là. Donc, les prochaines semaines vont être pas mal intéressantes à suivre pour les deux formations, puis voir qu'est-ce que le calendrier de séries éliminatoires va ressembler dans la Ligue canadienne.
Parce que là, c'est juste pour pas que je me trompe, tout se peut encore. Là. C'est encore possible pour ces deux équipes-là de s'en sortir, mais faut mettre les bouchées doubles.
C'est la beauté d'avoir juste 9 équipes dans la Ligue
canadienne.
C'est
ça. C'est
sûr qu'en arrivant à la fin de saison comme ça, une défaite peut carrément t'enlever des séries éliminatoires ou du portrait des séries éliminatoires. Puis il y a aussi des matchs qui sont plus prenables que d'autres. Alors, ça va être intéressant de voir. Je sais que les Alouettes vont affronter les Argos. Ils ont du succès contre les Argos de Toronto récemment. Mais ça reste que faut être capable d'aller chercher ces matchs-là, parce que si tu vas pas les chercher, au final, t'es en train de creuser ta tombe. Là.
Bon, ben on pourra surveiller ça et s'en rejaser assurément. Olivier Beauregard, un grand merci, puis on se reparle la semaine prochaine.
Absolument, merci, bye-bye.